Radio Capilan, ce vendredi à 10h05, heure de Kinshasa, une nouvelle émission d'éducation civique et électorale. Le magazine électoral aborde toutes les questions liées au processus électoral et fait le point sur la loi électorale. Le magazine électoral, un forum sur les élections en RDC. Tous les vendredis de 10h à 11h, rediffusion samedi de 11h à 12h sur Radio Capi, votre radio.
Bien, le monde célèbre la journée internationale de la paix ce vendredi 21 septembre. Cette célébration se focalise sur les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une société pacifique est une société où la justice et l'égalité existent pour tous. Quelle relation existe entre la paix et le droit de l'homme? Comment promouvoir les droits à la paix en République démocratique du Congo? Quel bilan faire de ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Eh bien, on aura des questions, les réponses à toutes ces questions dans cette émission avec nos invités. Vous voulez participer, vous avez des préoccupations par rapport à la thématique, appelez au 081 890 63 94. Nous rappelons que cette journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde et l'Assemblée générale a consacré cette journée au renforcement des idéaux de paix tant au sein des nations et des peuples qu'entre ceux-ci. On commence avec vous, professeur Nicole Boitier. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Vous êtes professeur de droit à l'Université de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui des 70 ans. À l'occasion de la journée de la paix, nous parlons des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En passant, c'est quoi la Déclaration universelle des droits de l'homme?
Mais c'est cette déclaration qui s'est faite en 1948, où, après les affres de la guerre de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité, on va dire, les tenants, les personnalités de cette époque-là qui tenait les États et qui était aussi parfois responsable de la guerre, ont décidé de prendre un engagement solennel qui a une valeur malheureusement, on va dire, morale, ou heureusement parce que plus tard ça va se transformer en coercitif avec la charte, mais ça c'est une autre histoire. Mmh. Et cette déclaration donc devait cristalliser la foi à vivre en paix désormais pour ne pas revivre les situations de déshumanité qui a été engendrée par les guerres de la Première et Deuxième Guerre mondiale, surtout la Deuxième Guerre mondiale.
Alors quand on parle de la paix, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là?
Ben, la paix, justement, d'une manière, on va dire, brute, lapidaire, on va dire, c'est une absence de guerre, absence de conflit, etc. Mmh. Mais moi, j'estime que c'est assez réducteur. Assez réducteur, pourquoi? Parce que la paix est une activité et non pas une passivité. Je m'explique, une activité, pourquoi? Parce que elle engage tout le monde dans une espèce d'interaction de vivre ensemble. Et cette interaction doit être animée par ce qu'on appelle un animus, donc un esprit de vivre sans velléité de violence, sans velléité de discorde. Donc voilà, donc c'est pas simplement en absence de guerre, c'est tous les jours en fait, c'est tous les jours qu'on doit cultiver cette paix dans des interactions.
Alors l'objectif 16 des objectifs de développement durable, dénommé paix, justice et institutions efficaces, met l'accent sur la promotion des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, l'accès à la justice pour tous et le renforcement des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. On peut dire que tout ça, instaurer la paix, ça demande beaucoup de choses, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses.
Absolument, ça va de pair. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont en intrication. Ils sont embrigadés les uns les autres. On ne peut pas parler de paix sans justice. Et je crois d'ailleurs que cette journée internationale justement de la paix se manifeste à l'ONU par ce qu'on appelle, le CG, le secrétaire général. Quand il vient, on sonne ce qu'on appelle la cloche de la paix. Cette cloche de la paix, c'est vraiment pour se rappeler de ce que la guerre a fait aux hommes. Et vous verrez une inscription sur cette cloche-là en disant « longue vie à la paix dans le monde ». Et quand on dit « longue vie à la paix dans le monde », c'est avec tous ces corollaires. La justice, les droits de l'homme, le droit à ceci, le droit à cela. Donc tout ça, c'est ensemble. Il n'y a pas de paix droit de l'homme, ça c'est sûr. Et même, plus tard, j'en parlerai peut-être avec André Cassin.
D'accord. Madame Christiane Ekambo est coordonnatrice de l'Association des journalistes pour la paix. Alors dites-nous, d'abord, pourquoi avoir mis en place une telle organisation?
Oui, nous avons créé cette association avec les membres des journalistes qui, au départ, n'étaient que des journalistes accrédités à la MONUSCO, donc à la mission des Nations Unies pour la paix. On a pensé qu'il fallait changer des concepts, voir un peu, avoir une autre approche du journalisme, c'est-à-dire inclure autre chose qui devait nous amener à réfléchir et à travailler toujours dans la direction de la paix. Nous avons créé cette association en 2006. Et aujourd'hui, on a ouvert un peu le champ à tous les journalistes qui militent pour la paix. C'est-à-dire que dans nos rédactions, dans nos reportages, dans nos écrits, les lecteurs, les téléspectateurs, pour ceux qui font l'audiovisuel, doivent sentir qu'il y a une analyse qui prône, qui parle. Donc on fait partie intégrante dans nos rédactions de cette notion de paix. Dans toutes les analyses qu'on doit faire, il y a une différence entre une justice de paix et journalisme de paix et le journalisme de guerre. Parce que à un moment donné, il y a des journalistes qui ont fait le journalisme de guerre. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Ils rendent directement compte de ce qui se passe sur le terrain,
sur le champ de bataille,
en temps des conflits. Mais tandis que le journalisme de paix essaye, comme j'avais dit, d'analyser pourquoi il y a eu les conflits et quelles sont les solutions pour remédier à ces conflits pour qu'on arrive justement à la paix.
Madame Christiane, on s'approche petit à petit de la période électorale. On sait que c'est une période délicate où il y a beaucoup de tensions. Comment est-ce que le journaliste, dans son travail au quotidien, peut contribuer à la culture de la paix, à l'instauration de la culture de la paix?
Oui, pendant cette période qui est vraiment une période cruciale, le journaliste doit faire un travail qui est intense. C'est-à-dire, à côté de son travail didactique, qui est de faire des reportages et tout, il doit faire attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il écrit, à tout ce qu'il rapporte. On pense souvent à comment est-ce que les médias vont faire travailler les hommes politiques, les mettre ensemble, pour que ces gens-là, qui sont souvent les auteurs des, qui incitent à la haine, qui incitent aux querelles, que le journaliste soit un peu le tampon entre les communautés. Donc, éviter les fake news surtout, et éviter les informations qui incitent à la révolte. Donc, en gros, c'est tout ça, quoi. Vraiment, instaurer un journalisme de paix en cette période électorale, préélectorale, au moment des élections et même après, surtout que souvent les résultats sont contestés. Donc il ne faut pas être alarmiste, ne pas donner, faire des projections qui n'en sont pas, quoi. Donc c'est vraiment ça.
Professeur Nicole, on parle souvent de la culture de la paix. De quoi s'agit-il?
La culture de la paix, mon Dieu. La culture de la paix, c'est déjà une prédisposition à intégrer les valeurs, les attitudes, les comportements, les prédispositions à vivre justement dans cet environnement de sérénité. Donc, quiconque qui a ces éléments en lui est dans une culture de paix. Est dans une culture de paix, c'est-à-dire que loin de lui tous ces éléments de discorde, loin de lui tous des éléments qui puissent l'emmener à entrer en conflit. Évidemment, vous me direz, il faut être surhumain.
Dans la société, on a toujours, nos esprits sont tournés toujours vers les conflits, les guerres, les problèmes.
Exactement, mais comme je dis toujours en droit international, il y a deux dieux grecs qu'on appelle Ethos et Thanatos, qui est Ethos, le dieu de la paix, de l'amour, on va dire, Eros, et Thanatos, c'est le dieu des conflits. Donc on a en nous, dans chaque être humain, on a Eros et Thanatos. Donc, et comme ils sont intimement liés, l'un malheureusement ne vit pas sans l'autre à cause de la nature humaine de l'individu, mais il y a moyen de faire disparaître l'autre en cultivant justement la culture de la paix. Et en général, Eros gagne. Sinon, on n'aurait pas des traités de paix, oui. On n'aurait pas des conventions de paix. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même moyen d'y arriver. Donc, voilà.
D'accord. On va accueillir deux auditeurs. Malonga à débat de nos villes. Eric nous appelle de Kinshasa. Vous voulez aussi participer, appelez au 081 890 63 94. Malonga, débat de nos villes. Bonjour. Malonga, bonjour. Voilà, il n'est plus là. Peut-être qu'il y a eu des soucis. Au niveau de la liaison téléphonique, il va certainement nous rappeler. Eric, on va prendre Eric de Kinshasa. Bonjour. Eric n'est plus là non plus. Voilà, Tati, elle va s'occuper de tout cela. Alors, je reviens à vous, professeur Nicole Boitia. Quel rapport y a-t-il entre les droits humains et la paix, la culture de la paix? Y a-t-il une relation entre ces deux notions?
La relation est intime, est intime. Au lendemain des affres de la guerre, quand je vous ai parlé, il fallait qu'on trouve une solution pour ne plus que ça se répète. Alors, pour ne plus que ça se répète, il faut mettre en avant les valeurs de l'homme. Ok.
Alors, pour ne pas vous couper la parole, on va l'avoir accueilli, Malonga. Malonga, des bandes de ville, bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Je vous écoute très bien, 605.
D'accord. Quelle est votre question par rapport à la Journée internationale de la paix?
Ok, merci beaucoup. Ma question, en tout cas, les questions sont multiples, mais on va pratiquer la paix. Moi, je veux demander d'abord, c'est une Journée internationale de la paix? Des droits de l'homme. Quel est cet homme qui est censé vraiment défendu par ses droits? C'est ce que je demande. Et après cela...
Pardon, quelle est la question?
Quel est cet homme qui est censé défendu par ses droits? C'est ce que je veux savoir. Et
quelle est la personne qui doit défendre les droits?
Qui est censé être défendu par ses droits? Puisque c'est un droit de l'homme. Il faut que nous connaissions d'abord cet homme qui est défendu par ses droits-là. Si c'est moi, si c'est vous, si c'est nous tous, si c'est homme africain, si européen, si blanc, si noir, c'est qui?
D'accord, si je comprends bien, qui doit défendre ses droits? Voilà, d'accord. Et la deuxième question?
Bon, la deuxième préoccupation, si je demande cela, c'est suite à ce que nous subissons, surtout. Les droits de l'homme doivent nous défendre, nous tous. Mais il y a les classes qui sont vraiment négligées et qui ne sont pas vraiment reconnues par ce statut-là. Nous, d'abord, les Congolais, vous savez ce que nous subissons. Hein? À peine nous entendons les élections. Mais à l'Est, vous savez, là-bas. Il y a un certain rêve qui se réclame que non, s'il se réveille comme ça et il va arriver à Kinshasa, comment on a banni le nom de certains candidats présidentiels, alors il se lève pour combattre là. Or, si on voit derrière lui, je dis, vous verrez qu'il y a ceux qui ont fait à ce que ces droits de l'homme existent. D'où ces droits-là. Quelle est l'importance de ça? Si le monde social, je dis, puisque c'est nous les sociaux qui souffrons, c'est nous qui sommes vraiment qui doivent être le bénéficiaire de ces droits.
D'accord.
Mais nous ne sommes pas vraiment en abondance.
D'accord, par rapport aux conditions de vie dans la société aujourd'hui. Alors, il te demande comment est-ce que ces droits sont respectés alors que les sociales posent problème. Eric est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Eric?
Oui, merci beaucoup pour la parole que vous me licenciez. Ce n'est pas une question, mais c'est juste la contribution. Oui, de mon avis, les droits de l'homme sont fortement consacrés et faiblement appliqués si les communautés tant nationales qu'internationales souffrent. Ce n'est pas par la force, mais par rapport à la mise en œuvre depuis son adoption jusqu'à ce jour. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, cet instrument, n'a jamais été respecté. Les grandes lignes de ces documents sont, je peux citer par exemple, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, l'instauration de l'état des droits. Mais dans l'état membre, comme traduction à l'EDC, ce texte n'a jamais été respecté et ne sera jamais respecté. Il sera jamais respecté là parce que nous constatons que bon nombre de cas de violations massives des droits de l'homme et que les auteurs de ces actes sont impunis. Alors selon moi, il faut renforcer l'efficacité de ce texte avec les guerres légales. Que les auteurs des actes de violation massive répondre de leurs actes devant leur jugement ou devant leur juge naturel.
Devant les cours, les cours des tribunaux.
Ok, telle est votre vie selon le sujet du jour.
Merci Eric. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, j'allais juste demander, apparemment nous voyons les États hein, modèles qui respectent en matière de respect, du respect des droits de l'homme sur leur territoire, violer ces droits-là sur d'autres territoires, comme les États-Unis par exemple, qui protègent ces ressortissants qui violent ces droits-là ailleurs. Les Nations Unies aussi protègent les casques bleus lorsqu'il y a des violations, des trucs comme ça. Je voulais savoir quelle est la procédure, soit les sanctions qui sont prévues sur le plan international lorsqu'un État viole ces droits-là. Et puis, j'ai pu constater aussi que les soi-disant violeurs de ces droits-là, comme hier j'ai entendu un de vos organismes, disons, dire qu'il y a des violations des droits de l'homme. Et pourtant, nous, en RDC, nous voyons l'RDC saluer ou soit briguer, assumer des fonctions dans cette commission-là. Est-ce que il y a des conditionnalités pour devenir membre de cet organisme ou c'est comment? Je voulais finir pour demander aussi que est-ce que vous ne pensez pas que les droits de l'homme aussi, le respect des droits de l'homme doit être aussi, disons, qu'est-ce que je dis, doit être fonction du niveau de développement d'un État, parce qu'on ne peut pas demander à un État sous-développé comme la RDC de respecter à 100% les droits de l'homme. Est-ce qu'on pouvait aussi tenir compte
du niveau
de l'État? Oui, oui.
D'accord.
Et puis, bon, pour finir, je voulais aussi dédier cette journée à tout le monde, comme c'est la paix. Nous voulons la paix en RDC. C'est le souhait de tout le monde. Militons tous pour
la paix. D'accord. D'accord. Professeur Nicole Boacha, vous avez la parole. Malonga, qui est avant nous, veut savoir qui doit défendre les droits, hein, les droits de l'homme. Qui est censé défendre ses droits?
Mais d'abord, c'est soi-même, vous-même. Parce que les droits sont faits pour vous. Les droits sont faits pour vous par les hommes, pour les hommes. Donc, vous-même, vous devez d'abord défendre vos droits. Ce qu'on constate, c'est quoi? C'est justement à cause peut-être des pesanteurs, on va dire, juridiques, des pesanteurs sécuritaires, ou parfois des pesanteurs politiques. On a parfois peur de brandir ce droit qui nous revient. Alors, vous-même, si vous n'osez pas aller dire que mon droit a été bafoué, eh ben je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous en sortir. Moi, je peux comprendre qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident dans des états difficiles, on va dire. Mais l'essentiel, c'est que d'être conscient de ça et braver cette difficulté. Alors à ce moment-là, quand vous la bravez, il faut assumer ce qui peut en advenir. Je crois que c'est comme dans cette idée-là que quelqu'un comme Nelson Mandela a pu fonctionner, dans cette idée-là que Monsieur Martin Luther King a pu fonctionner, comment est-ce que Gandhi a pu fonctionner, etc., etc. Donc je crois que nous tous, nous sommes des personnes qui créons ces droits-là. Et évidemment, si ça devient des droits consacrés, c'est parce que il y a des États se sont mis d'accord pour les cristalliser dans un document qui était d'abord à de simples valeurs, donc Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qu'on a rendu contraignant par la Charte des droits de l'homme des Nations Unies. Là, c'est contraignant. Vous violez, vous avez des sanctions. Moi, je crois que nous sommes tous les artisans de ce droit de l'homme-là.
Madame Christiane, vous avez suivi, il dit, faut-il parler aujourd'hui du droit de l'homme alors que le social pose problème, les gens ne sont pas payés, les enfants ne vont pas à l'école, il y a la pauvreté, il y a la misère, la crise, tant de problèmes dans la société.
Effectivement, c'est soi-même. On est chacun artisan de la paix. Nous devons, chaque personne doit savoir qu'il est en même temps agent et acteur de la paix. Donc, nous devons tous participer. Ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte de sous-développement qu'on ne peut pas avoir la paix. Quand il n'y en a pas, quand on ne trouve pas la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la libre circulation des personnes, il n'y a pas la libre circulation des marchandises, il n'y a pas, disons, le droit économique, les droits sociaux ne sont pas respectés. Mais qui doit le faire? Il y a l'État qui est garant, c'est-à-dire qui doit mettre en place des structures, qui doit respecter des engagements pris, mais il y a aussi nous autres, les citoyens, qui avons des obligations vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la société, qui, en respectant ces obligations, ça va faire en sorte que nous puissions avoir cette paix-là que nous désirons. La paix, bien sûr, ça reste, ça devient à un moment donné un idéal, mais un idéal qui doit être permanent. Un idéal, c'est ce qu'on veut avoir pour avoir la quiétude, pour avoir la paix. Donc, ce n'est pas donné à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on a la paix. Mmh. Hein? On a le terrorisme aujourd'hui. Mmh. Ça a frappé avec le terrorisme, avec l'attentat aux États-Unis. Le 11 septembre 2001. Oui, alors ça, ce n'est pas parce qu'ils sont développés qu'il n'y a pas eu cet attentat-là. Mais nous luttons en sorte, nous faisons en sorte que chaque individu fait en sorte qu'il n'y ait pas ces débordements-là.
Alors, au niveau de chaque rédaction, par exemple, comment identifier les informations qui contribuent à la culture de la paix? Au niveau de nos rédactions respectives.
Oui, pour nous, le journaliste, nous avons, un grand travail, parce que nous devons véhiculer la paix dans nos rédactions. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Je l'avais dit, c'est à partir d'un journalisme préventif. Nous devons faire un journalisme préventif. Le journalisme préventif, c'est en même temps, il y a l'investigation et aussi la recherche de solutions. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, nous parlons de Kuluna. Mmh. Il y a le phénomène Kuluna. Mais pour un journaliste, est-ce qu'il faut seulement dire que on a attaqué...
Les Kuluna ont attaqué les gens, les passants, ils ont arraché téléphone.
Ça ne suffit pas. Mmh. Nous devons être à la recherche. Nous allons dans la profondeur même de ces phénomènes-là. C'est un phénomène social qui vient de naître avec la jeunesse. Mais maintenant, on doit chercher pourquoi ces gens-là, comment est-ce qu'ils agissent, quelles sont les causes qui amènent à ce que les jeunes deviennent des Kuluna, et que c'est quelle catégorie des personnes. Et en ce moment-là, où on est en train de chercher les solutions, directement, on peut trouver, c'est-à-dire les moyens d'y remédier. Donc, je pense que le travail que le journaliste doit faire, c'est vraiment un travail de recherche des solutions, en même temps mettre en exergue le phénomène et aussi proposer des pistes de solutions.
D'accord, on va accueillir trois autres auditeurs avant de répondre aux autres questions. Patrick Betou est à Kinshasa, Kachai à Kanyoka, Etienne nous appelle des Kalimi. Alors, soyez bref, dans vos interventions, les autres attendent, passez tout droit, allez tout droit au but, à la question. Patrick Betou, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à toutes les dames qui se trouvent sur le plateau en ce moment.
Quelle est votre question, Patrick?
Oui, je n'ai pas une question, mais c'est juste une contribution. En fait, les thèmes, c'est vraiment très intéressant parce que nous sommes dans un pays où les lois posent toujours des problèmes. Et les gens ne sont pas vraiment très sensibilisés par rapport aux différentes lois. Ils pensent que la violation des droits de l'homme, c'est fait seulement ici au Congo. Or, la violation des droits de l'homme, c'est partout au monde. C'est vraiment partout, même en Europe ou en Amérique. Mais les gens ont tendance à penser que c'est seulement ici au Congo où les droits de l'homme posent un sérieux problème. Merci beaucoup et c'est Patrick depuis Kinshasa.
D'accord. Kachai nous appelle de Kanyoka. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Moi, je voulais tout simplement aller tout droit au but pour demander à notre invité de nous donner certaines précisions par rapport à la définition de la paix dans le monde. Comment la paix est définie? Deuxièmement, les droits de l'homme sont abondamment proclamés, constamment violés et insuffisamment protégés en RDC, parce que c'est le cas de la RDC pour lequel j'ai une réalité. Je ne peux pas parler d'abord du monde entier. Elle partage le même avis avec moi par rapport à cela.
Kachai, est-ce que vous avez des exemples des cas précis des violations des droits de l'homme en RDC?
Monsieur Jody, quand nous parlons de la violation des droits de l'homme en RDC, la manifestation publique. Est-ce qu'on respecte cela? Lorsque les gens ne savent pas accéder aux besoins de la première nécessité, aux sortes de premières nécessités, la nourriture, les logements et bien d'autres choses du genre, vous pensez que nous sommes dans la paix? Lorsque nous marchons, nous dormons dans le noir et nous nous réveillons dans le robinet fermé. Vous pensez que nous sommes dans la paix? Lorsque nous marchons dans l'insécurité, nous vivons avec les militaires. Nous partageons les croyances avec les miliciens. Les experts internationaux tués, massacrés, malmenés, opprimés. Lorsqu'il y a des déplacés massifs, lorsque les populations croupissent, lorsque les gens sont en train de traverser des périodes de vaches maigres et traversent la vie en total dénuement, est-ce que nous sommes en paix? Lorsque les gens ont des nerfs tendus, la conscience est bêtée, le cœur froissé, vous pensez que nous sommes dans la paix? C'est pourquoi je voulais demander, c'est une violation massive des droits de l'homme qui sont d'ailleurs abondamment proclamés dans tous les textes juridiques congolais.
Oui.
Constamment violé par ceux qui ont le marteau du commandement.
D'accord. Et
en quelque
D'accord.
sorte, même les Congolais entre eux.
D'accord, merci Akachai. Étienne, vous êtes à Kalemie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, c'est l'invité.
Quelle est votre question, Étienne?
Oui, j'ai une préoccupation seulement, parce que le monde, chaque année, célèbre la Journée internationale de la paix. Mais nous constatons, c'est regrettable, dans notre pays, on constate chaque jour, les gens sont tués à Beni, les gens sont tués au Sud Kivu, les gens sont tués à Ituri. C'est une chose déplorable. Et puis le monde célèbre chaque année la Journée internationale de la paix. On constate, par exemple, c'était hier, on entendait la radio Kapi, qu'il y a la guerre quelque part au niveau de l'Ituri, où on a constaté jusqu'à 5 morts. C'est une chose déplorable. J'ai une question, une préoccupation à poser à l'invité. Quelles sont les prérogatives que le gouvernement a pris vis-à-vis de cette situation, aussi à la MONUSCO, parce que c'est une institution pour la maintien de la paix en République démocratique du Congo. Merci, monsieur le journaliste.
D'accord. Odin et Congo, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, bonjour aux invités, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, rapidement?
Ok, juste deux petites questions à soumettre aux invités. La première est celle de savoir, pour qu'on parle du droit de l'homme, on doit d'abord parler de la paix. Or, la paix vient du respect de la loi. Or, la loi n'est qu'un instrument sans valeur lorsqu'il n'y a pas la justice. Mais dans notre pays, la justice existe bien sûr, mais ne fait pas bien son travail. Est-ce qu'on peut parler du droit de l'homme lorsque la justice ne fait pas bien son travail? C'est ça ma première question. Et la deuxième question, la plupart des cas, comme ici dans notre province de l'Équateur, précisément en Bandaka, il y a différentes radios que nous avons ici, ce sont des radios des politiciens. Et la plupart des journalistes qui travaillent dans ces différentes radios, ce sont des familles, des amis ou des petits frères, des beaux frères, tout comme ça.
Des politiciens,
ils
voilà.
Ils ne sont pas bien formés. Mmh. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les attitudes que nous allons prendre, nous journalistes, dont j'ai dit, quelles sont les attitudes que les journalistes vont prendre pendant cette période électorale, parce que la plupart des cas, les journalistes vont seulement acclamer, chanter, dire des dialogues au nom de leur promoteur. Alors, ils ne sont pas vraiment formés dans ces cas. Nous sommes proches des élections. Quelles sont les attitudes que ces journalistes vont prendre?
D'accord.
Ça, mes deux préoccupations, j'ai dit, je vous remercie.
Merci, Odin et Congo de Mbandaka. Professeur Nicole Boadja, vous avez suivi, Eric a parlé d'après lui, les droits de l'homme ne sont pas respectés, il y a l'impunité dans notre pays, et il y a aussi un autre Kachai qui a parlé des violations. Chaque jour, on assiste à la violation massive des droits de l'homme. Il y a des problèmes au niveau de logement, nourriture, l'insécurité, il a parlé des massacres et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ses auditeurs?
Bon, je ne vais pas dire que c'est pas vrai, je ne vais pas dire que je ne vais pas renier les faits, mais malheureusement, les faits étant ce qu'ils sont, on peut pas non plus s'asseoir sur ses lauriers en disant bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est comme ça, c'est, nous sommes dans un pays du tiers-monde, nous sommes dans un pays à problème, on ne fait rien. Bien au contraire, bien au contraire. C'est parce que ces faits-là existent qu'il faut absolument avoir ce déclic, avoir absolument cette lueur de pouvoir se battre. Comme je vous l'ai dit, il faut, je sais que c'est difficile dans le contexte, mais il faut vraiment, quand je dis le mot oser, c'est le mot oser. Allez, revenons un peu dans l'histoire. Je vous ai parlé de Martin Luther King. Il a osé. Et ce n'est pas vraiment Martin Luther King qui a commencé le mouvement des revendications des droits civiques américains. Mm. Beaucoup de gens l'oublient. C'est Rosa Parks. Rosa Parks, la noire, la dame noire qui, dans un bus de blanc, a refusé de céder sa place à un blanc. Et quand on a constaté cela, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Le révérend Martin Luther King a eu vent de ça et c'est là que c'est parti. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que pourtant c'était dans un contexte difficile où les normes ne pouvaient pas parler, où les droits de l'homme étaient bafoués. Mais vous avez vu qu'il y en a un qui s'est levé et qui a osé. Je crois que tout tourne au mot oser.
On a eu aussi Nelson Mandela.
Nelson Mandela, etc. Moi, je peux vous raconter rapidement une petite anecdote, vraiment rapide. Je donne cours de droit foncier dans l'université de La Place. L'étudiant, je parlais des certificats d'enregistrement, justement. Comment est-ce que le conservateur du titre immobilier doit produire cet instrument-là? L'étudiant, dans le fond, courageux qu'il est, il me dit, madame le professeur, tout ce que vous racontez, c'est du blablabla, comme ça. Je dis, mais pourquoi? Mais parce qu'au Congo, ici, on connaît le rôle du conservateur. Le conservateur fait ci, fait ça, il triche, etc., etc. Alors je lui dis, je ne peux pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes là, avec ce que vous savez, vous pouvez aller à l'encontre en donnant une autre impulsion. Mmh. Ok. Une fois que c'est... Donc je dis, il faut oser. Le gars, quand le cours termine, le gars se lève, il vient vers moi, avec son appareil portable, il vient juste à mon pupitre, il met le portable pour prendre une photo. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Il dit, mais madame, vous avez dit qu'il fallait oser. Donc, mais là, ça m'a complètement, on va dire, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Donc, c'est pour dire simplement que quoi? Que c'est pas parce que la situation est complètement abîmée. C'est pas parce que la situation est ce qu'elle est qu'il ne faut pas, en tout cas, vivre avec ces impulsions-là. Vivre avec cette culture de paix. Je l'ai dit tantôt, cette culture de paix qui est cet ensemble de valeurs et des attitudes que nous, les hommes, nous avons et que nous demandons qu'à exhiber malgré les affres, malgré les obstacles que l'on peut avoir. Parce que, ne dit-on pas que l'homme se découvre et se mesure face à l'obstacle.
Et Odin et Congo nous dit comment parler de la paix alors que la justice ne fait pas bien son travail.
Malheureusement, c'est vrai. Toutes ces notions de droits de l'homme, etc., ne fonctionnent que dans un pays dit démocratique. Je peux comprendre aussi. La justice ne fait pas son travail globalement. Vous parlez à un ancien magistrat, je sais exactement de quoi il parle. Mais, à un moment donné, c'est encore une fois... Écoutez, monsieur, vous voulez que je vous donne de l'argent pour mon droit? Eh bien, je ne veux pas vous en donner. Faites ce que vous voulez. Je crois qu'une personne, deux personnes, trois personnes qui acceptent cette philosophie-là, de cultiver la paix en soi, la paix qui entraîne évidemment les droits de l'homme, etc., peut avancer parce que c'est trop facile de se reposer sur les lauriers. Ouais, la justice ne fonctionne pas, on ne va pas aller là-bas. Non, mais alors, les gens qui sont comme ça, qui entretiennent justement ce désordre-là, vont s'asseoir sur leur laurier en disant, de toute façon, on sait qu'ils ne viendront pas parce que, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça nous appartient à nous parce que c'est à nous. La paix est intrinsèque à l'homme, est ontologique à l'homme. Et quand on a cette paix-là, c'est à ce moment-là qu'on peut se créer des droits. Vous comprenez?
D'accord. Madame Christiane, vous avez suivi Odin et Kongo de Manaka. On dit là-bas, il y a des radios qui sont tenues par des politiques. Et les journalistes qui travaillent là-bas, c'est des cousins et autres, ils ne font que la propagande. Donc quand ils ouvrent, c'est pour peut-être lancer des injures, des messages haineux à l'encontre des autres, des adversaires politiques. Et ils disent qu'ils ne sont pas formés. Et surtout à l'approche de la période électorale, une période cruciale, il y a besoin de former ces journalistes-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ces sujets?
Avant de répondre à cette question, moi je voudrais rajouter quelque chose à ce que ma sœur vient de dire ici.
Oui.
Je pense que toutes les questions qu'on est en train de poser, que les auditeurs sont en train de poser, nous renvoient un peu au bilan, au fait, au bilan de la des effets de la Déclaration universelle de droits de l'homme. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'il y a?
Quel bilan on peut faire pour la RDC, par exemple?
Mmh. Donc, on peut dire que pour la RDC, en fait, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes soulevé, que le bilan est mitigé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ça, il faut le reconnaître. Mmh. On est arrivé, on était quand même un pays sous l'emprise de la dictature. On est arrivé à accéder à la démocratie. Ça, c'est déjà un pas. Donc, mais à côté de cette démocratie, nous voyons qu'il y a eu des poches d'insécurité, des poches des zones de conflit par-ci, par-là, surtout à l'est, dans la partie orientale du pays. Et c'est cette insécurité-là, disons, c'est ces conflits-là, qui ont entraîné l'insécurité, qui ont entraîné à ce que la paix ne soit pas totale. Mais il y a les autorités, il y a le gouvernement qui a mis en place des solutions, qui trouve des solutions. Mmh. Avec, on a vu l'accord de la Saint-Sylvestre, tout ça. Ce n'est pas parfait, mais c'est pour remédier, en tout cas, c'est pour trouver. Trouver un équilibre à ce qu'on arrive à la paix. Et alors, pour répondre à la question de mon confrère, justement, de Mbandaka,
oui.
Effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup de renforcement des capacités en ce qui concerne les journalistes. Le journaliste doit, en ce moment-ci, en cette période qui est vraiment, comme je l'avais dit au départ, une période cruciale, où on se retrouvera sûrement dans le média offrira, disons, les médias en général vont offrir, disons,
un espace
pour les politiciens là où ils vont se bagarrer. Là où... Et nous, en ce moment-là, on doit être le juste milieu, faire l'équilibriste. Mais comment faire l'équilibriste si on ne fait pas attention au respect de la déontologie journalistique. Mmh. Et là, moi, je me rappelle, je veux ici rappeler le dernièrement, il y a deux jours, il y a le président de l'Union de la presse du Congo, Monsieur Kasonga Tulunde, qui a dit, nous sommes en train de multiplier les formations, nous sommes en train de multiplier les ateliers pour les journalistes afin que les journalistes ne soient pas les auteurs des troubles et que eux-mêmes aussi soient protégés. Parce que ce n'est pas parce que on est journaliste qu'on est en train de parler, c'est-à-dire de reprendre ce que le responsable de l'organe veut. Faire la propagande ou l'anti-propagande pour l'autre partie et qu'on fait bien son travail. Et quand on ne fait pas bien son travail, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'on risque d'aller en prison, on risque de violer la loi, on risque de se faire assassiner. Il y a des journalistes qui se sont fait assassiner parce qu'ils ont été parfois, disons qu'ils ont été en dehors de leur zone de travail ou bien
ils
parce
se sont
que
mis en insécurité.
Ils se sont mis en insécurité. Voilà. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y en a qui ont été des martyrs parce qu'ils ont aussi bien fait leur travail et que la vérité, souvent, la vérité gêne même les responsables. Parfois ça gêne.
Alors pour ça, Nicole, est-ce qu'on peut dire que la paix est-elle l'absence de la guerre?
C'est assez réducteur, oui, dans un premier temps, oui, disons que d'une façon, on va dire, banale, lapidaire, oui, c'est absence de guerre, ça c'est la définition classique. Mais puisque je dis que c'est assez réducteur, il faut mettre la paix dans un contexte d'une activité permanente, d'une combativité permanente, sans cesse, pour, comme je l'ai dit tantôt, extraire tous les germes de violence, tous les germes de désaccord que l'homme a en soi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'on est forcément en paix. Ok? Donc, évidemment, visuellement, oui. Donc, il n'y a pas de guerre, on est en paix. Mais est-ce que dans sa maison, on peut ne pas être en paix? à cause de différents problèmes qu'il peut y avoir au sein de la maison. C'est une forme de violation de la paix. Ok, mais ah, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que c'est, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ça se cultive tous les jours. Donc, dire que c'est simplement absence de guerre, non, ça c'est classique.
Ça, c'est classique,
il faut vraiment aller d'une manière plutôt ontologique, une manière, je pourrais même dire extra normale, si je peux me permettre, pour définir cette paix.
D'accord. On va accueillir les trois derniers auditeurs avant de terminer cette partie. Bindou Maombi nous appelle des Masisi, Maître Machaka, Eta Lumbashi et Jean-Pierre Akikwita. Bindou Maombi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à mes auditeurs.
Voilà, rapidement, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Bindou, vous pouvez vous retirer un tout petit peu là où c'est beaucoup plus calme. Quelle est votre question, Bindou?
Oui, j'ai deux questions que je vais adresser à nos invités. Et la première et la suivante. Je mérite.
Bon, désolé, il est parti. Maître Machaka de Lumbashi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody, bonjour aux invités, bonjour à tous les hôtels de la Radio Okapi.
Quel est votre problème ?
Monsieur Jody, vous savez, oui, Monsieur Jody, moi j'ai commencé à constater que beaucoup des organismes internationaux, et ils ont seulement l'argent, besoin de l'argent de ratification, mais faire le suivi sur l'objet de leur mission, ça devient un peu hypothétique. Je prends le cas d'ici chez nous, puisque l'absence de la paix, ce n'est pas seulement la guerre. Lorsque quelqu'un commence à faire quelque chose contre son gré, il n'a plus la guerre, il n'a plus la paix, monsieur Jody. Alors, je donne des exemples seulement typiques. Récemment, on a attaqué une manifestation pacifique à Kinshasa, et il y a même de certains gens qui sont hospitalisés, on a suivi sur vos chaînes. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à paix? Ici, chez nous, à Lumbashi, je vous donne un exemple, puisque le quotidien seulement, le problème des transports, la mairie a fixé le transport à 400 francs par course, mais les chauffeurs sont en train de taxer 1000 francs et 500 aux yeux des mêmes autorités qui ont fixé ces prix-là. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Quelle est la sanction réservée à un pays qui ne parvient pas à respecter certaines conventions? Lui-même, c'est le pays lui-même, les autorités elles-mêmes qui violent ces droits de l'homme. Alors, je pose la question aux invités, est-ce quelle sanction est réservée à un pays qui, le pays lui-même, les autorités elles-mêmes sont les premières à violer les mêmes et les lois qu'ils ont ratifiées?
D'accord. Jean-Pierre de Kikwit, bonjour.
Bonjour, chers journalistes, et bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui. Je voudrais dire ceci. Est-ce que tout ce que vous dites, la radio Okapi, les invités, les gouvernements, est-ce qu'ils entendent seulement tout ce que vous dites sur le droit de l'homme, sur la paix? La paix, c'est ce qui fait respecter les droits. La paix, c'est ce qui est nécessaire pour l'homme. Mais moi, je me demande, votre radio Okapi, il est pour le gouvernement, il vient seulement pour les fantaisistes, ou pourquoi tout ce que vous dites, tous les membres du gouvernement sont-ils à l'écoute? Est-ce que vous faites des rapports? Tous ces invités que vous appelez, qu'est-ce qu'ils nous disent pendant que nous ne sommes pas en paix? Il y a
D'accord.
des situations indignes. Il y a tout ce qui est maltraité. Les gens sont mal payés. Comment est-ce qu'on fait respecter les droits? Et ces droits-là, c'est la paix. La paix est exclusive à tout le monde.
D'accord.
Si le journaliste, si le gouvernement vous écoute, et si vous faites des rapports, vous faites seulement les fantaisistes pour nous faire voir la.
D'accord, merci M. Jean-Pierre Kikwit. Nous, on ne fait que donner les informations, M. Jean-Pierre. On ne prend pas de décision. Professeur Nicole Boitia, vous avez suivi. Maître Machaka nous dit qu'il n'y a pas de suivi au niveau des organismes. On organise une manifestation pacifique. On vient vous tirer dessus. La mairie a fixé les transports en commun à 400 francs. Les chauffeurs demandent 1000 francs. Tout ça, c'est des problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Machaka de Lumbashi?
Maître Machaka de Lumbashi, je peux simplement constater comme vous ce qui se passe. Mais je crois que pour résorber ce problème, il faudrait malheureusement réfléchir sur ces questions de dysfonctionnalité entre ce qui est universel et ce qui est relativiste. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que les droits de l'homme en question, qui ont été concoctés dans un paysage, on va dire, occidental, avec des réalités complètement occidentales, ne trouvent pas forcément le même code, le même message, la même application dans un champ socioculturel différent. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que par exemple, allez, le mot corruption, certains mots qui sont propres à une explication occidentale, mais quand ça arrive à Kinshasa ou dans un autre pays de cette ère culturelle là, mm-hmm. vous concédez que ça, l'éducation est difficile. Il faut maintenant faire ce que j'appelle une adaptation aux réalités du terrain, yeah. afin d'extraire justement ces éléments de dysfonctionnalité. Mm-hmm. C'est simplement comme ça que je peux répondre. Parce que ce que vous constatez, nous le constatons tous, mais maintenant c'est réfléchir comment adapter justement ces droits de l'homme par rapport au relativisme africain ou congolais.
Madame Christiane, quels sont les effets de la paix et comment les vulgariser?
On ne sait pas énumérer les effets de la paix. Mmh. On ne sait pas les énumérer parce que tant que nous sommes dans une société, nous conformons aux coutumes des uns et des autres, aux traditions, à la façon de vivre. C'est-à-dire que nous cherchons à avoir un équilibre dans ce que nous faisons. Mmh. On peut citer, par exemple, pour dire que pour avoir la paix, il faut, disons, que tous les enfants aillent à l'école, il faut qu'on mange à sa faim, il faut qu'on ait les transports, la circulation vraiment qui soit assez fluide, qu'on ait les bonnes routes et tout. Donc il y a quelques indicateurs qui peuvent nous permettre de dire qu'il y a la paix. Et comment faire en sorte, je ne sais pas, la vulgarisation de la paix ne peut se faire qu'à partir de, il faut mettre les communautés autour d'une table, il faut organiser des tables rondes, il faut organiser, inciter la communauté à la culture de la paix. Enseigner, éduquer la population, surtout dans les milieux reculés, dans les zones à conflit, qu'on mette des gens autour de la table. Donc toute la société, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, pour voir un peu, et surtout aussi les défenseurs des droits de l'homme, tout le monde autour de la table, pour que chacun puisse être sensibilisé sur la notion de la paix, sur l'importance de la paix. Parce que sans paix, nous ne pouvons pas avoir un développement total. D'accord. Nous ne pouvons pas avoir un développement durable. D'accord. La paix, elle est là. C'est bien sûr, comme on a dit, c'est un idéal. Et c'est difficile d'avoir une paix totale, mais on se bat pour que on l'est quand même.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Christiane Ekambo. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'Association des journalistes pour la paix. Nous disons aussi merci à Madame Nicole Boacha, professeure des droits à l'Université de Kinshasa, et à la prochaine.
Merci.